Bonjour, ici Hugo Prévost, le rédacteur en chef de pieuvre.ca. Si vous aimez nos épisodes de podcast, si vous aimez ce qu'on publie sur notre site, je vous invite à nous encourager en vous abonnant à notre page Patreon. Pour seulement 5 $ par mois, ça vous donne accès à une séance de questions-réponses. Ça vous donne également accès à des épisodes en primeur du balado Rembobinage. Et nous, avec votre contribution, ça nous permet de payer nos journalistes, nos pigistes. Ça nous donne aussi l'occasion de développer de nouveaux concepts, de nouvelles émissions. Et ça nous permet, bien sûr, d'acheter du matériel. Je vous remercie énormément et bonne écoute. Kevin Laforêt, comment ça va?
Ça va bien, Hugo, et toi?
Oui, ça va bien aussi, merci. Je tiens à souligner que ton chat vient de rentrer dans la pièce où tu enregistres, donc bonjour, bonjour le chat, Kevin.
C'est mon chien, en fait.
Ton chien, en fait, oui, c'est vrai, ton chien. Mais j'ai juste vu une queue un peu fluffy, je me disais c'est peut-être un chat, mais j'ai oublié.
Il a à peu près la grosseur d'un chat, mais c'est un petit chihuahua.
Ah oui, c'est vrai, un chihuahua.
Ben, écoute, les deux, même.
Tous les goûts sont dans la nature, semble-t-il.
C'est les meilleurs chiens.
En tout cas, ils ne sont pas tuables. Ça, c'est l'avantage. Voilà. Ils vivent très longtemps. Ben écoute, bienvenue, évidemment, à Rembobinage, nouvel épisode de ce podcast cinéma-télé. Gros mandat cette semaine. On va en parler, on est là pour ça, mais d'abord, c'est un documentaire, le documentaire cette semaine, chose qu'on ne fait pas souvent. C'est toujours un peu particulier quand on se parle pour essayer de trouver quel sera le prochain film. Il y a des moments où ça va de soi. Je pense qu'on a fait Dune, entre autres. C'était assez évident. On était pile dedans. D'autres moments donnés, on se creuse un peu les méninges. On cherche qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui est intéressant sur les plateformes, qu'est-ce qui est à l'affiche au cinéma. Ce film-là, ce documentaire-là, ça sort. Ben, en fait, quand vous allez écouter l'épisode, ça devrait être en salle. Donc, si vous écoutez cet épisode le vendredi 30 juin, ça sort cette journée-là. Donc, à Montréal, au cinéma du Parc, je pense, c'est bien ça?
Oui, c'est ça.
Voilà, donc nos amis du cinéma du Parc, qu'on salue d'ailleurs. Et c'est ça, donc on regardait peut-être pour autre chose avant ça, on essaie de se coordonner, tout ça, de trouver un film. J'ai brièvement tenté d'obtenir des billets pour le nouveau Indiana Jones. Il y avait une promotion pour avoir une projection ce soir, donc mercredi le 28. Il y avait une projection ce soir au Banque Scotia et finalement, j'ai constaté que le site web vers lequel on m'envoyait pour la promotion, pour avoir une chance de gagner des billets, était à peu près le pire site web de tous les temps. Un peu, tu sais, quand tu essaies d'acheter des billets pour un spectacle, puis là, le site plante parce qu'il y a trop de monde qui va aller acheter des billets pour le spectacle. Donc, c'est à peu près ça. Ça plantait. Tout ça pour avoir une chance de peut-être aller voir le film. Donc, le nouveau Indiana Jones. D'ailleurs, je fais une courte parenthèse. Quand on a fait l'épisode, ben là, il n'est pas encore sorti, mais quand on a fait le plus récent épisode destiné en primaire à nos abonnés sur Patreon, qui est Raiders of the Lost Ark, donc le premier Indiana Jones, tu avais mentionné que tu aimais bien, que tu aimais beaucoup même le quatrième.
Oui.
Kingdom of the Crystal Skull. Je l'ai réécouté cette semaine.
Aha!
Et c'est moins pire que dans mon souvenir.
Bon.
Mais pas prêt à dire que c'est le meilleur.
Non, c'est le moins bon des quatre, mais c'est pas le navet que certains disent, je trouve.
Non. Non, effectivement. Ben écoute, c'est ça. J'ai eu du plaisir. Certaines scènes où je fais comme c'est correct. Mais bref, voilà. Donc je tenais à mentionner. J'ai fait mes devoirs, entre guillemets, je suis allé écouter Kingdom of the Crystal Skull. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont des amateurs de critique cinéma, que ce soit en audio, comme notre podcast ou en vidéo, sachez que les gens de Red Letter Media, qui ont servi d'inspiration pour Rembobinage, ils ont une émission qui s'appelle Review, donc ils revoient des films qui sont sortis depuis plusieurs années. Et leur nouvel épisode de Review, c'est sur Le Temple Maudit, donc Temple of Doom. Et c'est assez intéressant ce qu'ils disent là-dessus, puis c'est assez intéressant leur réflexion. Puis ils donnent un peu de contexte. Je m'attendais pas trop là-dessus, parce qu'évidemment, c'est pas du tout le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Mais si ça vous tente d'aller voir ça, après, évidemment, avoir écouté cet épisode-ci, je vous invite à le faire, parce que moi, j'aime beaucoup les gars de Red Letter Media. Et donc, j'écoute, je pense, pratiquement religieusement tout ce qui sort. Toujours intéressant, toujours divertissant. Bref, allô Kevin.
Salut Hugo.
Cette semaine, donc, on parlait pour trouver un sujet et on nous envoie des courriels de sortie des films qui sortent, bon, avec possibilité souvent d'avoir un code de visionnement, parce qu'évidemment, on n'est jamais ressorti depuis mars 2020. donc, c'est ça, cette semaine, on a choisi... Qu'est-ce qu'on a choisi, en fait, Kevin, cette semaine?
Ben c'est ça, je suis pas sûr encore de quelle façon l'épisode va être présenté sur les plateformes, tout ça, mais principalement, je crois qu'on va parler du documentaire Lynch Oz.
Oui, effectivement.
Qui, comme le
oui.
titre l'indique, c'est un documentaire qui essaie d'établir des liens entre le magicien d'Oz et la filmographie de David Lynch. Mais tu mentionnais tantôt que le film sort ce vendredi 30 juin au cinéma du Parc. On a remarqué que également ce week-end au cinéma du Parc, vendredi, samedi et dimanche, il y a des représentations spéciales d'un film de David Lynch, de Mulholland Drive, dans le cadre de Minuit au Parc. Donc, on s'est dit que tant qu'à y être, on pouvait faire une espèce d'épisode hybride où qu'on allait parler du documentaire et parler quand même aussi de Mulholland Drive et peut-être même de David Lynch en général. On va voir comment ça va.
Ben, écoute, effectivement, moi, je viens tout juste là, de finir. J'ai écouté le documentaire. J'avoue que j'ai coupé les 10 dernières minutes du documentaire parce que sinon, j'allais pas arriver pour l'enregistrement d'aujourd'hui. Faut savoir que, bon, David Lynch a jamais vraiment adhéré à la règle du 1h30. Donc, Mulholland Drive, 2h30, ça les remplit très bien, mais c'est ça, 2h30 quand même. Le documentaire, je pense, c'est 1h40, donc c'est plus dans le standard, mais un documentaire, bon. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses dans le documentaire, c'est pas parce que ça dure 90 minutes, dans ce cas-ci 108, que c'est un mauvais documentaire. Bref, je sais que toi, tu connais beaucoup David Lynch. Je pense écouter tous ses films. Est-ce que ça se peut?
Pas tous, mais en fait, j'avais vu certains de ses films au fil des ans. Mm-hmm. Il y en avait quand même plusieurs que j'avais pas vus, mais depuis quoi une semaine ou deux, je me suis vraiment plongé dans sa filmographie. J'ai écouté son premier film, Eraserhead, j'ai écouté le film de Twin Peaks, puis évidemment, j'ai revu Mulholland Drive et le documentaire. Mm-hmm. Fait que c'est ça, je peux pas dire que je suis un expert, mais mettons que je baigne pas mal là-dedans depuis un peu plus qu'une semaine. Là.
Bon, ben écoute, c'est excellent tout ça. Moi, j'avais commencé à écouter Twin Peaks avec ma conjointe. Il y a de cela maintenant quelques années et on avait fait la première saison puis à un moment donné on avait décroché, bon j'ai pas repris malheureusement, puis c'est le genre de série que je me dis que c'est tellement bizarre et étrange que je devrais reprendre depuis le début pour être sûr de comprendre un peu ce qui se passe tout après une pause de plusieurs années. Ironiquement, mon premier contact avec David Lynch est Dune de 1984, dont on a parlé, évidemment, quand on a fait l'épisode sur le film de Denis Villeneuve. Et là, c'est ça. Bon, moi, j'ai écouté, je vais tout juste, comme je le disais, de finir Mulholland Drive, dont j'avais vu, je pense, les 15 premières minutes, il y a très, très longtemps, à une époque où j'achetais des DVD pour 2, pour 30 $ chez HMV, sur Sainte-Catherine. Donc, pour les jeunes, essayez pas de comprendre si c'est quelque chose qui est complètement disparu aujourd'hui. Ne serait-ce que d'abord d'acheter des DVD, puis ensuite HMV sur Sainte-Catherine. Bref, donc c'est ça, j'avais vu, je pense, 15 minutes, j'avais tout oublié. Et ce que je trouve vraiment intéressant, de façon où j'ai structuré mes choses, puis c'est pas une question de me vanter ou quoi que ce soit, mais j'ai écouté le documentaire avant de voir Mulholland Drive. Et dans le documentaire, tu l'as mentionné, c'est beaucoup, beaucoup les liens entre le magicien d'Oz et, bon, non seulement la filmographie de David Lynch qui est au cœur du film, mais énormément de films connus. Et quand il est question de Lynch, il est surtout question de Mulholland Drive où on tisse énormément de parallèles entre Par exemple, bon, la question de se trouver dans un monde normal, entre guillemets, au départ, puis après ça, d'arriver dans un monde fantastique, donc qui est le pays d'Oz. Bref, il y a toutes sortes de choses intéressantes à dire là-dessus. Juste avant qu'on plonge vraiment, j'allais dire, dans le terrier du lapin, c'est pas le même film, mais bon, ça c'est plus Alice au pays des merveilles. Donc, Lynch Oz, juste indiquer un peu, bon, qui l'a fait, ça serait peut-être important de le dire. Alexandre O. Philippe, que je ne connais pas, qui est un réalisateur que je ne connais pas, mais donc c'est ça, qui a rassemblé plusieurs personnes du monde du cinéma, dont John Waters, qu'on connaît peut-être un peu plus là par rapport aux autres personnes qui sont mentionnées disons, reçu en entrevue pour le documentaire. Donc, toutes ces personnes-là, je pense que 6, 7 ou 8 personnes vont parler de leur rapport au Magicien d'Oz, vont parler de leur rapport à David Lynch. Souvent, c'est des gens qui connaissent Lynch personnellement, notamment, bon, je disais, John Waters, pas nécessairement travailler avec lui, mais bref, se connaissent depuis très, très longtemps. On fait des films, d'ailleurs, qui se ressemblaient à certaines époques. Donc c'est tout un monde, là, un monde un peu tissé serré là, qui s'exprime sur Lynch. Lynch n'est pas dans le documentaire, mais il y a beaucoup d'extraits. Donc tu disais Twin Peaks, on disait Mulholland Drive, beaucoup d'extraits de presque tous ses films sans doute. Et ben écoute, dis-moi ce que toi t'as pensé de Lynch Oz.
J'ai aimé le documentaire. Un peu comme de la façon que t'en parles, je pense que les gens comprennent, ça va dans toutes les directions.
Oui.
Il y a, je pense que c'est divisé en 6 chapitres. Donc, chaque chapitre a un peu une thèse par rapport au lien entre David Lynch puis le Magicien d'Oz. Mais il y a beaucoup de détours et c'est pas seulement ça. Tu sais, des fois, on parle de plein d'autres films. Il y a des mentions de Star Wars, de La Matrice, de Big Lebowski, de à peu près... je pense qu'il doit y avoir des centaines d'extraits de films, donc il y a plein de tangentes et de liens à faire. C'est super intéressant, c'est une grosse job de montage, entre autres, puis il y a plein d'idées intéressantes qui sont véhiculées, mais si vous vous attendez à finalement comprendre David Lynch et avoir des réponses claires, c'est pas ça, tu sais, c'est comme... Dans le fond, tu finis d'écouter Lynch Oz, puis t'as plus de questions qu'au début, pratiquement. Là.
Ben oui. Puis encore une fois, tu sais, toi, tu dis, bon, tu t'es replongé dans David Lynch depuis une semaine. Moi, je suis arrivé là, encore une fois, avec mon expérience de... Bon, je connaissais Lynch un peu, je connais un peu le personnage. Avec mon expérience de Dune, puis bon, un peu de Twin Peaks... Puis on sait, bon, David Lynch, tu suis un peu le cinéma, tu sais que c'est un type un peu... Il est particulier, il est un peu bizarre, il est toujours là, mais il est pas vraiment à l'avant de la scène nécessairement, il est comme un peu... Il est en coulisses, il a du fun avec ce qu'il fait, il fait pas un film à toutes les années, il fait un film, je pense, aux 5 ans à peu près, peut-être même moins. Donc, clairement quelqu'un qui a une vision du monde, vision du cinéma qui est excessivement particulière. Et j'avais un peu peur, puis bon, plus tard, on parlera de Mulholland Drive, mais j'avais un peu peur d'arriver là puis de me dire que de pas comprendre David Lynch, de pas comprendre le parce que je comprends... avant de voir le documentaire, je comprenais un peu l'intérêt du type. Comme je te dis, bon, tu le sais, là, il est spécial. Mm-hmm. Pas dans le mauvais sens du terme, mais il est spécial. Et il est capable de désarçonner... en te montrant une scène que tu te dis, voyons, à quoi ça fait référence? Et en voyant les explications, puis ça, d'ailleurs, je pense que c'est peut-être un des inconvénients un peu du documentaire, c'est qu'on vient souvent sur, évidemment, c'est l'objectif, mais on répète parfois les mêmes points, puis on dit, OK, on a compris que David Lynch est inspiré du Magicien d'Oz, puis bon. Mais on comprend plus, je pense, dans ce sens-là, la vision du monde de David Lynch. Il semble avoir été excessivement influencé par le Magicien d'Oz, comme bon nombre d'autres cinéastes. Et d'après ça, moi, de mon bord, de voir Mulholland Drive, puis de revoir des scènes dont il avait été question dans le documentaire, et là, de comprendre un peu plus, et de savoir un peu plus qu'est-ce qui s'en vient. J'ai pas, ça veut pas dire que j'ai entièrement compris Mulholland Drive. J'avoue que les 15 dernières minutes, c'était un petit peu wild. Mais, tu sais, ça m'a permis de comme, OK, c'est ça qu'il essaie de mettre de l'avant, c'est ça qu'il essaie de présenter. Et il dit, OK, tu sais, il y a quelque chose, il y a vraiment une vision du monde, puis il y a vraiment quelque chose, un univers cinématographique, une carrière qui s'articule autour d'un film de Vachedol, c'est quoi, c'est 1900, les années 30?
1939.
Oui. Donc, tu sais, il y a un film qui bon, il n'y a pas 100 ans, mais près de 90, et qui, semble-t-il, continue de représenter un jalon extraordinaire dans l'histoire du cinéma, là.
Oui, c'est ça. Puis je pense que ce que le film, le documentaire montre bien, c'est que, tu sais, souvent, David Lynch est quand même bizarre. On pourrait même dire qu'il fait du cinéma surréaliste. Mais parmi les surréalistes, c'est quand même peut-être celui qui est le plus accessible, celui qui est peut-être le plus populaire, tu sais, comparé à des cinéastes vraiment underground qui font des trucs transgressifs que la majorité du monde serait pas capable de regarder. Les films de David Lynch, ils ont quand même certains référents qui sont communs. Puis justement, c'est le sujet principal, Le Magicien d'Oz, qui est un film que à peu près tout le monde a vu. Souvent même les gens ont vu ce film-là dès qu'ils étaient enfants. En ayant des références, que ce soit direct ou indirect, au Magicien d'Oz, tu sais, qu'on pense, mettons, à le motif de la route, avec les souliers rouges, les sorcières, ou tu sais, le concept général de la majorité du film se passe dans un rêve, et dans le rêve, il y a comme des doubles de personnages de la réalité. Tout ça, c'est des trucs que David Lynch joue avec dans pratiquement tous ses films, et ça offre un peu comme des clés. Tu sais, un film surréaliste, peut-être, on peut regarder ça puis rien comprendre puis avoir rien à quoi s'accrocher. Mais quand, mettons, dans Wild at Heart, il y a la sorcière ou il y a des trucs vraiment, clairement, c'est des références au Magicien d'Oz, ça donne une idée de, ah, OK, c'est un peu comme un genre de conte de fées, c'est de la magie, c'est on comprend le symbolisme plus que si c'était des trucs complètement inaccessibles.
Oui, absolument. Puis c'est, de, comme tu le mentionnes, d'avoir au moins ces codes-là pour pouvoir saisir une partie de l'œuvre. Puis on n'est pas en train de dire du tout que David Lynch recrée constamment Le Magicien d'Oz. Je pense que, bon, tu mentionnais Wild at Heart, que je n'ai pas vu, mais il y a des extraits de Wild at Heart dans le documentaire. Puis on nous montre, comme tu disais, des scènes où, bon, un personnage féminin se fait agresser, puis elle porte des talons hauts rouges. Ben là, elle frappe les talons ensemble trois fois pour se dire, bon, ben je vais rentrer chez moi parce qu'en ce moment, l'endroit où je suis, c'est horrible. Bon, j'ai subi de la violence ou quoi que ce soit. Quelque chose de traumatisant. Puis bon, ça fonctionne pas parce qu'on n'est pas dans le pays du Magicien d'Oz. Mais il y a vraiment cette idée-là de double réalité, cette idée-là de, tu sais, bon, le fameux rideau que tu tires, puis derrière, finalement, tu te rends compte que le magicien, c'est un gars avec des machines, puis des boutons, puis tout ça. D'ailleurs, ce qui revient, cette idée-là du rideau revient plusieurs fois dans Mulholland Drive, entre autres. Bref, il y a vraiment quelque chose, ce documentaire-là m'a intrigué, parce qu'il y a des choses que je connaissais pas, puis c'est sûr que, comment je pourrais dire, on peut arriver... surtout quand on prend Le Magicien d'Oz, qui est un film, bon, qui est un film qui a presque 100 ans, bon, qui utilise des thèmes très centraux, bon, la quête du héros, les amis du personnage principal, tout ça, le méchant, bon, et qui, en soi-même, a établi plusieurs codes cinématographiques. C'est sûr que tu dis, bon, tu prends un film comme ça, c'est certain qu'il y a énormément de gens qui vont faire des films par après, vont s'inspirer intentionnellement ou par accident, vont reprendre les mêmes codes, vont reprendre les mêmes idées, vont reprendre, tu sais, bon, le saga du héros, ça n'a pas changé depuis les poèmes grecs, là, dans l'Antiquité. Tout ce qui a changé autour, ce qui a changé, c'est les artifices autour et les effets spéciaux. donc, tu sais, de dire, bon, est-ce que Star Wars, c'est basé sur le Magicien d'Oz? Peut-être, un peu. Tu sais, on pourrait dire aussi, c'est basé sur Metropolis, c'est basé sur les samouraïs japonais, c'est basé. Donc, tu sais, clairement que oui, on met beaucoup l'accent sur Lynch s'inspire du Magicien d'Oz. Puis comme quand je pense que j'étais rendu au sixième ou septième chapitre, je me dis ok, regarde, j'ai compris. puis c'est pas que c'est pas intéressant, mais à un moment donné, est-ce que tu peux développer éternellement sur un même sujet? Bref, il y a quelque chose dans ce film-là. C'est genre de documentaire, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi ou non, mais je le recommanderais. C'est pas nécessairement aux néophytes qui ont pas vu beaucoup de films, parce qu'à un moment donné, il va y avoir des références à toutes sortes de choses qu'on comprendra peut-être pas, mais à des gens qui ont vu des films depuis plusieurs années, sans être nécessairement des fanatiques de cinéma, puis des gens qui sont des accros. Mais tu sais, des gens qui ont été au cinéma depuis plusieurs années, puis qui disent, OK, ils ont peut-être entendu parler de David Lynch, ont peut-être dit, ouais, je sais pas trop, ça m'inspire pas, ça me fait peur un peu, ça a l'air de quelqu'un, comme justement, d'inaccessible. Tu sais, même si on le connaît peu, je pense que ça vaut la peine. Parce que, comme tu l'as mentionné, tu sais, c'est pas juste Lynch, c'est des dizaines d'autres films, donc autant de réalisateurs différents. C'est vraiment d'explorer, finalement, l'impact du Magicien d'Oz sur l'ensemble du cinéma et David Lynch en même temps.
Oui, exactement, c'est ça. Tantôt, je le disais un peu que c'était un peu entre guillemets, défaut du film, justement, de s'éloigner de sa prémisse, mais d'un autre angle, ça peut être aussi une qualité parce que, justement, ça peut devenir répétitif de tout le temps dire Lynch Oz, Lynch Oz. Donc, quand subitement on dit « Ah, ben on fait un petit passage, qu'on parle de Kubrick, ben c'est différent. » Ou il y a un bout que ça parle du labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro, puis que clairement qu'il y a un film inspiré du Magicien d'Oz et tout ça. Fait que ça permet de un peu diversifier le tout. Ou tu mentionnais qu'il y avait un des intervenants, c'est John Waters. Oui. Dans le chapitre de John Waters parle pratiquement plus de lui-même que de David Lynch.
Ben, donc, c'est très John Waters, je te dis.
Ouais, ben c'est ça, tu sais, c'est comme... je pense qu'ils ont dit, hey, viens nous parler de David Lynch, puis finalement, il a fait, ben moi aussi, j'aime ça, le Magicien d'Oz, il y en a dans mes films aussi, fait que je vais quand même vous parler de mes films, fait que pour les fans de John Waters, ça peut valoir la peine, c'est une autre petite entrée dans ce documentaire-là, là.
Absolument. Est-ce que tu recommandes Lynch Oz dans ce cas-là?
Ben oui, je le recommande. C'est pas un film parfait, mais c'est un film, tu sais, tu disais, quelqu'un, mettons, qui connaît peu David Lynch, ça peut être une sorte d'introduction qui permet après ça de mieux réussir à entrer dans son cinéma. Ça, je suis d'accord, mais je pense aussi que le public cible, c'est vraiment... des cinéphiles vraiment aguerris. Oui. Si, mettons, vous êtes... C'est votre réalisateur préféré, David Lynch, ou que vous tripez au bout sur le cinéma en général, tu sais, c'est le genre de documentaire que c'est quand même fascinant de voir tous ces extraits-là, puis d'avoir toutes ces théories-là, et de vraiment... C'est vraiment pas un film qui reste en surface puis que c'est comme un truc, mettons, qui passerait à la télé grand public, là. C'est vraiment... C'est pour cinéphiles.
Ça me fait penser... et c'est pas un jugement de valeur là, sur la qualité de l'autre truc, mais il y a eu, je pense que c'est sur Netflix, une série de documentaires sur le making-of de différents films très populaires, Aliens, Retour vers le futur, tout ça, puis c'est très bien, mais c'est pas le même genre de niveau d'analyse.
Non, c'est ça, t'as raison, c'est complètement le contraire. Je pense que ça s'appelle The Movies That Made Us.
Ouais.
C'est très divertissant comme série, mais ça, c'est vraiment... Ça s'adresse à monsieur, madame, tout le monde. C'est des petites anecdotes, puis c'est des... Le moindrement qu'on connaît le cinéma, on est déjà au courant de tout ça, puis tu sais, c'est très en surface.
Oui, puis ça n'empêche pas, encore une fois, comme je dis, c'est pas parce que c'est plus en surface que c'est moins bon. J'en ai écouté quelques-uns avec ma conjointe, puis c'était sympathique et tout
ben
ça.
Oui.
Mais bon, tu sais, Lich Oz, moi, j'ai essayé vous, tu sais, confortablement, soyez prêts. Puis je vais être très honnête avec toi, puis c'est un peu le feeling que j'ai depuis que je fais le balado. Puis c'est le même feeling que j'avais quand j'ai commencé, par exemple, à critiquer de la musique classique ou... j'ai encore un petit sentiment d'imposteur. Parce que, bon, tu sais, des films, j'en écoute, puis je suis capable de parler, tu me donnes un sujet, généralement, je suis capable de me débrouiller derrière un micro, j'ai assez, tu sais, de ça tourne assez vite dans ma tête pour que je sois capable d'alimenter une conversation. Mais, tu sais, je veux dire, toi, tes connaissances en cinéma sont plus avancées que les miennes, sont plus développées que les miennes. Quand on avait Raphaël Ouellet avec nous, je me sentais un peu la troisième roue du carrosse. Bon, en fait, du vélo, plus que... En tout cas, peu importe. Puis bon, j'en ai des connaissances au cinéma, puis se faire l'émission, ça m'a beaucoup aidé à développer ça. Puis tu sais, tout ce que tu mentionnes, souvent, c'est comme, ah, OK, je vais aller écouter telle chose, je vais aller voir tel film, on se parle évidemment hors... à l'extérieur des séances d'enregistrement et tout. Mais c'est ça, j'avais peur, en écoutant ce documentaire-là, de dire, est-ce que je vais être là, puis je vais rien comprendre, puis avoir l'impression d'être un peu nono. Puis pas tant que ça, finalement. Un petit peu.
Non, ben c'est ça. C'est pas non plus un truc super académique et vraiment super pointu que c'est impossible à comprendre. T'sais, c'est quand même, disons, un entre-deux entre The Movies That Made Us puis mettons quelque chose qui aurait les gens qui font des doctorats sur un film, quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment inaccessible.
Oui. Ben écoutez, pour ceux que ça intéresse, pour les gens, justement, les cinéphiles un petit peu aguerris quand même, qui connaissent un peu le milieu, le domaine, connaissent peut-être bien, ou comme tu disais, très bien David Lynch, c'est aussi évidemment une excellente porte d'entrée. Donc c'est ça, c'est à l'affiche à partir d'aujourd'hui, ben aujourd'hui étant le 30 juin, en tout cas c'est un peu compliqué les dates de mise en ligne, puis se projeter dans l'avenir. Comme dirait Yoda, toujours au mouvement est l'avenir, n'est-ce pas? Voilà. Donc, bref, c'est ça. À l'affiche, à partir du 30 juin au cinéma du Parc. Est-ce qu'on tente d'essayer de comprendre Mulholland Drive? Est-ce qu'on plonge là-dedans, toi et moi?
Ben oui, on peut faire un petit segment quand même sur Mulholland Drive, vu qu'il va jouer au cinéma du Parc en même temps. Fait que ça vaut la peine. Puis toi et moi, on l'a revu.
Oui.
On vient tout juste de le revoir.
Absolument.
Donc, peut-être...
Est-ce que tu veux nous résumer un peu l'intrigue du film?
Ouais, ben c'est ça, je vais y aller brièvement, puis je vais même prendre la gimmick de Lynch Oz. Donc, le Mulholland Drive, c'est comme le Magicien d'Oz, ce n'était qu'un rêve. Donc, t'sais, peut-être que moi, je me souviens que quand le film est sorti en 2001, quand je suis allé le voir au cinéma, j'étais pas au courant que c'était ça le concept.
Ouais.
Donc, moi, ça m'avait quand même... surpris et même un peu dérouté que après environ 2 heures que la fille elle se réveille puis là finalement c'est plus la même réalité tout ça puis ça m'avait même frustré je pourrais dire à l'époque j'avais comme fait ah ok je comprends plus rien mais aujourd'hui tu sais au fil des ans c'est un film dont j'ai beaucoup entendu parler j'ai lu des trucs et comme tu dis Lynch Oz offre certaines clés en particulier par rapport à Mulholland Drive donc quand j'ai revu le film cette semaine là j'ai fait ah ok je l'ai adoré comme je l'avais jamais adoré puis j'ai relativement compris parce que justement c'est ça c'est l'histoire d'une actrice qui est jouée par Naomi Watts. Et pendant la majorité du film, c'est une jeune actrice naïve qui arrive à Los Angeles, à Hollywood, et qui va passer des auditions, tout ça. Puis en même temps, elle tombe sur une autre jeune femme qui est amnésique parce qu'elle a été dans un accident d'auto. Puis il essaye de découvrir c'est quoi la vraie identité de cette fille-là.
Mm-hmm.
Et en gros, c'est ça la majorité du film. Puis je pense que, tu sais, vu que le film il est sorti il y a 22 ans, tu sais, on vient de parler de
ouais, ouais.
C'était un rêve, tout ça, c'est pas un divulgateur. Éventuellement, il se passe plein d'affaires assez surréalistes. On est chez David Lynch. Éventuellement, Naomi Watts, son personnage, se réveille Et là, on découvre que c'est une actrice, mais beaucoup moins naïve, beaucoup moins pure. Elle est vraiment un peu trash, un peu pratiquement en psychose. Elle a vraiment pas l'air d'aller bien. Et on revoit différents personnages de son rêve, mais qui sont dans des rôles différents, comme la fille amnésique qu'elle aidait et dont elle tombait amoureuse dans son rêve. Là, on comprend que c'est comme une ex-amante, mais que maintenant, elle sort avec un réalisateur, puis Naomi Watts est bien troublée de ça, puis elle est complètement obsédée par son ex, puis ça va pas bien, son affaire. Là.
Fait que, non, effectivement,
je sais pas si c'est un résumé qui se tient, là.
Oui, absolument. Ben, écoute, ça se tient bien. Puis bon, ça fait plusieurs fois qu'on le dit. Effectivement, ça, c'est inspiré par Le Magicien d'Oz, c'est-à-dire, bon, la question du rêve, la question de réalité. On a des jets de boucanes, c'est des couleurs un peu comme dans le palais du Magicien d'Oz. On a tout à l'heure, je parlais des fameux... des rideaux que l'on tire, puis là, que finalement on découvre ce qui se passe derrière et tout ça. C'est aussi évidemment une critique assez ouverte d'Hollywood, du système hollywoodien. Moi, j'écoutais ce film-là, j'entendais presque la mélodie de Hotel California dans ma tête, la chanson des Eagles. C'est ça, c'est vraiment une façon de montrer à quel point le système vient broyer les gens. Puis même quand c'est dans le rêve, il y a une scène où le personnage de Naomi Watts fait une audition et quand elle pratique l'audition avec son amie amnésique chez elle, c'est très standard, c'est bien, mais tu sais, il y a pas de quoi écrire à sa mère, comme on dit. Et quand elle fait l'audition, c'est très sensuel, c'est quasiment sexuel, alors que le texte ne change pas. Et, tu sais, il y a certains moments où, tu sais, bon, on peut dire David Lynch est obscur et intense dans ses idées. Là, c'est vraiment comme, tu sais, bon, regarde, la sexualisation d'Hollywood, les jeunes femmes qui sont abusées. Puis évidemment, là, ça, c'est sorti avant toute l'histoire de Jeffrey Epstein. C'est un autre, c'est pas le même pervers. C'est pas le même
Harvey Weinstein.
Sexuel. Harvey Weinstein, on parle
dans,
pas
un
même
peu personne. Dans la même catégorie, là.
Oui, malheureusement. Bref, donc, c'est avant l'histoire de Weinstein, mais peut-être qu'à l'époque, déjà, c'était connu, ça se chuchotait, c'est bon de dire, regarde, reste pas, faut que tu plaises aux bonnes personnes, justement, pour être sélectionné. Il y a toute une histoire parallèle dans le film où, justement, le réalisateur se fait imposer un choix d'actrice. On comprend jamais trop pourquoi. Peut-être que c'est la blonde d'un mafioso ou la fille d'un mafioso. Bref, y a toute cette histoire-là de ce monde qui, en apparence, est merveilleux, fantastique, mais qui, sous la surface, est en train de moisir puis de pourrir sur pied. Puis il y a des petites affaires comme ça. Je sais pas si tu as remarqué, il y a des moments donnés où on se promène justement autour d'un appartement pour essayer de trouver l'identité de la personne amnésique. Et sur le devant de l'appartement, il y a des beaux arbustes, tout ça, c'est bien entretenu. Puis sur le côté, ça commence à être du bois mort. Ça commence à des... J'ai peut-être imaginé des choses, là, mais...
Mais non, mais c'est quelque chose que David Lynch, ça revient dans beaucoup de ses films. Je pense, entre autres, à Blue Velvet, que dès l'introduction du film... on voit comme une banlieue américaine qui a l'air parfaite, tout est beau. Puis là, la caméra se rapproche, puis là, on rentre comme dans le gazon, puis la terre, puis on voit qu'il y a comme plein d'insectes dégueulasses, puis tout ça, que c'est vraiment l'idée que derrière ce qui a l'air beau et parfait, il y a tout le temps des trucs un peu bizarres et dégoulinants, tu sais, de façon littérale et figurée, là.
Oui, oui, absolument. Bref, donc ça, Mulholland Drive, comme tu mentionnais, c'est bon, après à peu près 2 heures, ça commence. Il y a eu des moments où au début, c'était un peu bizarre, on ne savait pas trop qu'est-ce qui se passait, mais là, après 2 heures, vraiment, c'était là, en bon français, on pogne notre débarque. Donc, notre personnage principal se réveille et constate effectivement, comme tu mentionnais, que sa vie... elle travaille pas vraiment, ou en tout cas, elle a pas assez d'argent pour bien entretenir son appartement, elle vit une place qui est un peu miteuse, ses fenêtres sont sales. Elle-même a pas l'air d'avoir pris de douche depuis une couple de semaines. Puis en fait, elle veut, puis bon, tu veux le gâcher, mais bon, comme une fois, tu disais, un film qui est vieux de 22 ans, elle veut faire assassiner son ancienne amante. Donc, elle est prête à faire tuer quelqu'un parce que sa vie fonctionne plus, là. Donc, on est rendu loin dans la déchéance.
Oui, vraiment. Puis, moi, cette fois-ci, ça m'a vraiment bouleversé. Puis, je savais à quoi m'attendre. Puis là, j'étais comme, wow, OK. Autant que j'aime la partie le rêve, tout ça, parce que tu sais, je trouve vraiment que Naomi Watts est vraiment lumineuse puis resplendissante, puis je trouvais ça vraiment le fun, son petit côté vraiment, ça a l'air d'un personnage d'un film des années, je sais pas, 40-50, tu sais, elle est vraiment trop idéalisée, la belle blonde aux yeux bleus qui arrive à Hollywood, puis que super naïve, mais... Puis, tu sais, toute l'histoire de retrouver l'identité de la fille amnésique, tu sais, c'est vraiment présenté un peu encore là comme un vieux film où que c'est vraiment pas... tu sais, c'est comme vraiment... C'est comme si les deux filles avaient du fun à faire leur petite enquête, mais en même temps, il y a plein de trucs tordus puis malaisants qui sont comme... tu sais, dans les marges de tout ce qu'on voit. Tu sais, ça reste toujours du David Lynch. Puis... on y revient toujours à la fin, là on sort du rêve complètement, puis là on est juste dans ce qui est sombre, dans ce qui est dérangeant, puis je sais pas, cette fois-ci j'ai vraiment trouvé que ça fonctionnait, puis encore là Naomi Watts, on dirait que ben littéralement elle joue un autre personnage, puis ça montre encore plus à quel point c'est une actrice extraordinaire parce que elle est vraiment transformée puis elle est complètement disjonctée puis ce qui est fou aussi, je sais pas si t'es au courant d'un peu de l'histoire de la production de Mulholland Drive, c'est que à la base c'était supposé d'être un pilote de série télé. Okay. David Lynch avait fait Twin Peaks. Et il avait été engagé pour faire un pilote pour voir s'il allait faire une autre série télé. Et finalement, ABC, le réseau de télé, ont fait « Ah non, on n'est pas intéressé à faire la série télé. » Fait que là, lui, il s'est retrouvé, il avait tourné à peu près 1h30, qui était comme le premier épisode de sa série. Oh ouais. Puis finalement, je pense que c'est une compagnie française qui ont donné de l'argent pour qu'il transforme ça en long métrage. Puis c'est fait que finalement, c'était pas voulu que ça soit une coupure aussi drastique. C'est un peu par la force des choses que pour essayer d'en faire un film, il a fait « Bon, OK, la partie pilote de série télé, c'était un rêve et on va vous montrer la réalité. » Puis là, évidemment, vu que c'était plus destiné à la télé américaine, là, subitement, c'est beaucoup plus violent. Il y a de la nudité, du sexe, tout ça. Fait que là... Il s'est fait du fun, là.
Oui, absolument. Mais c'est drôle que tu dises ça parce que, effectivement, quand il y a eu la cassure, je me suis dit, OK, c'est un peu étrange, mais bon, c'est David Lynch. Donc, tu sais, ce genre de choses, il pourrait nous arriver. Bon, je pense pas qu'il va le faire. Comme tu disais en début d'épisode, il essaie quand même d'être relativement accessible. Il fait pas exprès de rendre les choses obscures et complexes. En tout cas, pas trop. Mais, tu sais, on aurait pu avoir un plan ensuite d'une assiette, je sais pas, avec des asticots, puis ça dure 2 minutes, puis je dis, OK, David Lynch. M'aurait pas étonné. J'aurais été un peu, surpris dans le sens que j'aurais cherché à comprendre le sens de la chose, mais j'aurais pas dit, ah non, ça sort complètement des codes habituels de David Lynch, ou, tu sais, je veux dire, Spielberg ferait ça, je comprendrais pas. David Lynch, OK, tu sais, c'est lui. mais j'avoue quand même, même avec cette transformation-là, puis avec cette espèce de rattrapage, finalement, tu sais, on m'avait tracé un peu un portrait du film dans Lynch Oz, parce qu'on compare, évidemment, on compare les deux de multiples reprises, et c'est pas à ça que je m'attendais exactement. Je sais pas si c'est une bonne ou mauvaise chose, mais j'ai trouvé peut-être, on m'avait tellement dit il va y avoir un twist, il va y avoir un twist, il va y avoir un twist, il va y avoir, tu sais, c'est des références au Magicien d'Oz, nanana, puis je trouvais finalement que le fait que tu me dises que c'est un pilote avorté, ou en tout cas une série télé avortée, ça explique des choses, parce que je trouve qu'au début, ça va pas assez vite, il y a pas assez de, ça prend du temps, un peu trop de temps avant que les choses se passent pour vrai, et puis après ça, comme tu dis, ça déboule. Donc, il y a comme une espèce de moment donné où j'aurais pris une transition un peu plus égale. Mais bon, tu me dis que c'est un rattrapage de série télé qui n'a pas marché. D'accord. J'accepte l'argument, puis j'accepte...
Mais c'est drôle parce que moi, je me souviens que quand j'ai vu le film, c'est ça, il y a 22 ans, quand c'est sorti, j'avais un peu la même impression que toi. Ça m'avait un peu légèrement laissé sur ma faim. J'adorais beaucoup d'éléments du film, mais le fait que qu'il y ait comme la coupure, puis tout ça, que j'arrivais pas vraiment à saisir tous les éléments, puis... j'étais un peu, j'avais des réserves, mais je pense qu'il faut vraiment, c'est un film qu'il faut voir plusieurs fois, faut comprendre ce que ce film-là essaye de faire, puis vraiment s'abandonner à la proposition totale, puis là, vraiment, moi, je trouve que ça fonctionne, puis il y a tellement de grosses scènes d'anthologie, t'as mentionné la fameuse scène de l'audition. Il y a aussi la scène avec le cowboy qui est tellement mystérieuse puis tendue puis c'est vraiment super mémorable. Il y a aussi évidemment Club Silencio. Tu disais le concept de mise en scène, les rideaux, les performances puis finalement c'est une illusion tout ça, c'est je sais pas combien de temps cette séquence-là dure, là, une bonne dizaine de minutes, puis tu sais, ça résume vraiment tout ce concept-là de mise en scène puis d'illusion vraiment parfaitement, là. Puis c'est ça, évidemment, toute la dernière partie qui est vraiment... c'est la partie la plus étrange, la plus lynchienne, on pourrait dire, là.
Oui, absolument. Mais il y a quand même un moment donné, tu sais, bon, encore une fois, c'est parce que je venais de passer 1h30 à me faire expliquer des choses. Là, je cherchais, je me disais dans ma tête, je vais analyser, tu sais, je comprenais ce qui se passait, Et les quelques dernières minutes, j'ai arrêté d'être capable de comprendre ce qui se passait. Puis je me disais, OK, ce genre de film, puis c'est pas le premier du genre dont on parle ici, mais il faut laisser aller un peu. Comme quand j'essaie de critiquer de la danse contemporaine, j'ai bien de la misère. Je suis très analytique entre mes deux oreilles. Faut laisser... Je pense que tu écoutes Mulholland Drive, puis les 5, 10, peut-être même les 15 dernières minutes, tu laisses aller, tu dis « OK, il nous amène quelque part, on se laisse transporter. Des fois, tu as des personnages incrustés en très petite taille à l'écran, des fois tu as de la transparence, des fois tu as de la superposition d'images. Puis dans le documentaire, il mentionnait que Lynch aime beaucoup prendre des vieux trucs de cinéma, justement, tu sais, des affaires qui se font plus, là. Tu as une image qui flotte en transparence sur l'image principale. Tu as des choses. Ça se fait plus aujourd'hui parce que les méthodes ont changé. Puis lui, il aime ça faire ça, semble-t-il. Et il nous le montre, là. C'est pas comme si c'était mystérieux. C'était comme, non, regardez, voici, j'ai la main dans la marionnette, là. Vous voyez la main qui bouge à travers la chaussette avec des yeux, là. C'est ça. C'est pas une vraie marionnette, c'est ma main dans la chaussette. Puis, en un sens, c'est intéressant, parce que c'est ça, tu vois ce qui se passe. Bon, est-ce que tu comprends plus qu'est-ce qu'il essaie de dire? Peut-être pas.
Ben, c'est pour ça que c'est là que ça devient intéressant de voir le film à plusieurs reprises, puis peut-être d'aller lire des articles, lire des livres, regarder... Ben, on a parlé d'un documentaire qui en parle en grande partie. Tout ça, ça permet de rendre l'expérience encore plus riche, parce que c'est pas tant important de comprendre. Je pense même que c'est impossible de complètement comprendre un film de David Lynch, parce que lui-même, je pense qu'il est beaucoup dans l'instinct. Il essaye pas nécessairement de faire des films qui sont comme, OK, A plus B égale C ou peu importe, là. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir accès à différentes interprétations, puis de vivre des émotions, puis... justement, tu sais, comme je disais, moi, quand j'ai vu le film il y a longtemps, quand c'est sorti en salle, j'ai eu une expérience. Là, je l'ai revu cette semaine, j'ai eu une expérience complètement différente. Puis, tu sais, si je le revois, dans 20 ans, je vais être rendu ailleurs dans ma vie, puis ça sera encore là une autre expérience. Fait que c'est le fun des films de même qui évoluent avec le temps.
Oui, absolument, absolument. Ben, écoute... Je pense qu'on a quand même relativement bien réussi à cerner
Oui, oui, je pense que
Mulholland
oui.
Drive. écoutez, ceux qui nous écoutent en ce moment, on mentionnait tout à l'heure, si ça vous tente, non seulement de voir le documentaire Lidge Oz, mais aussi de voir ou revoir Mulholland Drive, c'est la fin de semaine idéale pour ça. Vous êtes à Montréal, Cinéma du Parc vendredi, donc le 30 juin, Lynch Oz prend l'affiche et pendant le week-end, c'est, tu me disais minuit au parc, c'est bien ça?
Ouais, je pense, dans le temps, quand ils ont commencé la série, c'était vraiment des projections à minuit, mais mm-hmm. tu sais, j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui tu sais, qui peuvent aller voir un film au milieu de la nuit, puis là, après, il n'y a même plus de métro après, là. Fait que maintenant, le vendredi et le samedi, je pense que c'est présenté à 9h30, le film.
D'accord.
Donc, quand ça finit, il y a encore un métro.
Oui.
Et il y a aussi une projection, je pense, le dimanche après-midi, peut-être à 2h30 ou quelque chose du genre.
D'accord. Ben, j'avoue que commencer à minuit un samedi soir puis finir à 2h30 du matin pour Mulholland Drive, c'est un tour de force.
Faut
c'est
peut-être pas être à jeun.
Non, non, mais c'est surtout que, bon... C'est pas que le film est endormant, mais je sais pas, on peut imaginer qu'après une journée, si tu te prépares pas physiquement, tu fais pas une petite sieste ou quelque chose, on peut avoir tendance à avoir les paupières qui s'alourdissent, mais c'est pas parce que c'est ennuyant, mais un film passé minuit, généralement, bon, c'est un peu tard, tout ça. Moi, je me souviens, puis je vais terminer là-dessus, j'avais vu Human Centipede à minuit dans le cadre de Fantasia. Encore aujourd'hui, ça fait plusieurs années, là, ça va faire une dizaine d'années. Je sais pas si je regrette ou pas mon choix.
Ouais. Je l'ai pas vu, mais j'en ai entendu parler. Ça a l'air quelque chose, ce film.
Je le recommande. Écoute, tu comprends le concept, là?
Ouais.
T'as pas besoin d'en savoir plus.
Oh, ouais.
Ça s'arrête là. Bref. Kevin, merci d'avoir été là pour ce nouvel épisode de Rembobinage.
Merci à toi, c'était le fun justement. J'étais pas sûr qu'est-ce que ça donnerait l'épisode vu qu'on parlait d'un documentaire, qu'on parlait aussi d'un film, puis que je savais pas comment on allait se perdre là-dedans, mais c'était super le fun.
Ben écoute, je pense qu'on a quand même réussi à faire quelque chose de bien effectivement. Je pense qu'on peut déjà mentionner. Je pense que je l'ai dit tout à l'heure, mais notre prochain épisode c'est le Raiders of the Lost Ark qui était encore une fois, en primeur sur Patreon. Et là, le mois est écoulé. Donc, pour le mois de juillet, vous allez avoir Raiders of the Lost Ark qui va être le prochain épisode donc public de Rembobinage. Pour la suite des choses, bien évidemment, on va, toi et moi, se consulter pour voir. Peut-être qu'on va aller voir le nouveau Indiana Jones. Ça serait un duo peut-être intéressant. Mais bon, sinon, il y a d'autres choses. Le prochain Mission Impossible, ça s'en vient, je pense?
Ça sort, je pense, le 12 juillet, ouais.
OK, donc j'ai vu tantôt justement une autre promotion pour essayer de gagner des billets. Peut-être que ça va, la chance va nous sourire cette fois-ci. Ou sinon, ben écoute, regarde, on se paiera une sortie en bro. Hein? On ira au Star City en bro, puis on écoutera un film d'action avec Tom Cruise.
Mais... ben oui, ça serait super.
Bref, écoute, on s'en reparle, puis ceux qui nous écoutent, encore une fois, merci d'être là, merci d'être fidèles au rendez-vous, toujours intéressant de faire ça pour vous. Avant de vous laisser, deux petites choses, bien sûr, d'abord, je vous invite à vous abonner à la page Facebook de l'émission, et je vous invite évidemment à vous abonner à l'infolettre de Pieuvre, ça vous donne accès à tous les contenus, y compris les épisodes de podcast. C'est gratuit et c'est livré dans votre boîte de réception chaque samedi matin. Pour ça, je vous dis merci et à bientôt.